Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Le journal Yves Decamp, bonjour Yves.
Bonjour. On savait qu'on allait se noyer, mais que les pompiers pouvaient nous ramener à la vie. Le terrible témoignage des sauveteurs rescapés de la SNSM au Sable d'Olonne, où trois des leurs sont morts. Le corps du marin pêcheur qu'ils voulaient sauver n'a pas été retrouvé. Toute une commune est aujourd'hui dans la douleur et le deuil. Qui a distribué en France de fausses steaks hachés aux associations caritatives, là où les entreprises responsables n'ont pas été révélées, mais il y a des soupçons. La viande frauduleuse venait de Pologne. Le gouvernement annonce une enquête au pénal. Consolider l'alliance avec Nissan. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire au Japon a tiré les leçons du retrait par Fiat de ses propositions. Il se dit prêt à baisser la participation de l'État au capital de Renault, comme le demandent les Japonais. Dans ce journal également, la terreur qui s'est abattue sur le Soudan 5 jours après la répression sanglante des manifestants de Khartoum. Djokovic en difficulté à Roland-Garros, le numéro 1 mondial est mené 2-7 à 1 en demi-finale par l'Autrichien Thiem. Et puis un clown suisse aux allures de Mr Bean qui pose ses valises dans un théâtre de Paris pour tout l'été. C'est le conseil spectacle de Stéphane Capron. La météo, la tempête Miguel est passée. 23 000 foyers sont encore privés d'électricité dans l'Ouest, où le ciel reste très nuageux et les températures assez fraîches.
France Inter.
Je suis le maire d'une ville en deuil au lendemain de la mort de trois sauveteurs de la SNSM et du pêcheur auquel ils voulaient porter secours. Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne, se fait de nouveau l'interprète de l'émotion et de la douleur des proches, des familles et de toute la communauté des gens de mer. Ils étaient 7 en tout sur la vedette retournée par la tempête, dont 3 se sont noyés, 3 marins confirmés de 28, 51 et 55 ans. Les 4 autres ont pu regagner la côte à la nage à 800 mètres de là. L'un d'entre eux, David, a raconté ce matin comment il avait pu échapper à la mort.
On savait qu'on allait se noyer, qu'on ne pouvait pas aller à la côte. La mer était trop formée. Donc effectivement, quand on a commencé à se rapprocher, enfin, Christophe s'est dit la même chose que moi. De toute façon, on est très, très serein dans notre tête. C'était on va se noyer, mais c'est pas grave. Les pompiers sont arrivés, ils sont pas loin, ils vont nous masser, c'est reparti. Le but, c'était d'aller le plus près possible des roches pour qu'on ait le moins de temps à passer noyé. Et on a eu la chance d'aller jusqu'au bout. Tous les pompiers ont mobilisé des moyens extraordinaires. Hein. Et tout de suite, ils sont arrivés sur nous. On a essayé de retourner en arrière pour retrouver les copains, mais on n'avait plus la force.
On était trois dans l'eau et...
Et puis la niaque.
L'un des 4 sauveteurs rescapés a passé la nuit en observation à l'hôpital où il est toujours. Le corps du marin pêcheur disparu dans la tempête n'a pas été retrouvé. Les recherches ont d'ailleurs été interrompues ce matin. En hommage aux victimes, les cloches ont retenti à midi au Sable d'Olonne où les drapeaux ont été mis en berne. Benjamin Mathieu, l'émotion est immense bien sûr ce midi encore pour tous les Sablais.
Oui, les cloches des Sables d'Olonne ont retenti dans toute la ville à midi pile pendant une dizaine de minutes pour un hommage rendu aux 3 sauveteurs dont tout le monde parle ici et qui montre à quel point la commune est meurtrie. Un peu plus tôt, c'est les larmes aux yeux que 2 des 4 rescapés se sont adressés aux journalistes. Christophe Monroe, le président de la station de la SNSM des Sables, s'en est sorti, tout comme son fils Jérôme.
Les vitres ont cassé et après le bateau n'était plus manœuvrant. On essayait de... Tant bien que mal dans le vélo qui est décopé l'eau qui est à l'intérieur, mais voilà, on partait à la dérive. Une déferlante est venue nous accoucher. Nous, on était sur le pont, on a été éjectés. Malheureusement, les 4 autres étaient à l'intérieur.
Et sur ces 4, un seul va s'en sortir, Emmanuel Hubé, transporté hier à l'hôpital, mais qui est hors de danger.
Le président de la SNSM, Xavier Delagorce, venu au Sable d'Olonne ce matin, lui a tenu à mettre un terme aux polémiques. Hein.
Oui, il a déjà réaffirmé que le bateau utilisé datant de 1986 était en parfait état de marche et bénéficiait de tous les certificats lui permettant de naviguer. Il est revenu également sur l'interdiction éventuelle de prendre la mer en cas de tempête pour prévenir d'éventuels drames de ce type.
Un terrien, on n'a jamais empêché un automobiliste de sortir parce qu'il y avait de la neige ou du verglas. On peut lui interdire certains accès et on ferme quelquefois des autoroutes. Mais la mer, c'est d'abord un espace de liberté. Donc, outre que ce serait très difficile à mettre en œuvre, ce serait, d'ailleurs, complètement contraire à la culture des gens de mer.
La douleur est immense ici, d'autant que ces 3 sauveteurs étaient des pères de famille. C'est la famille des sauveteurs, des marins, qui est durement touchée au Sable d'Olonne.
Benjamin Mathieu au Sable d'Olonne avec Georges Thau. Au bilan de cette tempête Miguel qui a traversé le centre-ouest du nord de l'Aquitaine jusqu'en Normandie, un homme a également été gravement blessé par la chute d'un réverbère à Paris. Et puis 23 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce midi sur les régions de l'ouest. C'est une ambiance plus sereine que nous annoncera tout à l'heure Jean-Michel Golinski pour ce week-end, avec toujours beaucoup de nuages et de fraîcheur à l'ouest. Qui a distribué de fausses têtes cachées aux associations caritatives? Dans l'affaire révélée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, si la marchandise ne présente aucun danger pour la santé, c'est une tromperie à grande échelle qu'il va falloir élucider. Les steaks hachés de très mauvaise qualité, composés surtout de gras, ont été distribués aux associations comme la Croix-Rouge ou le Secours Populaire dans le cadre d'un marché financé par le Fonds européen d'aide aux plus démunis, mais c'est aux autorités nationales qu'il revient de vérifier la qualité de l'alimentation. Alors, qui a fauté? C'est ce que devra déterminer l'enquête. On sait que la viande frauduleuse, qui n'avait rien d'une viande d'ailleurs, venait de Pologne. Reste à connaître là où les entreprises françaises qui ont servi d'intermédiaire. Delphine Evenou, pas de certitude sur ce point pour l'instant.
Non, aucun nom n'est donné officiellement, ni par la répression des fraudes qui a révélé l'affaire, ni par les associations qui renvoient vers le secret de l'enquête en cours, ni par France Agrimaire qui passe les appels d'offres dans le cadre du programme européen d'aide aux plus démunis, et en l'occurrence, ce marché d'offres remporté par l'entreprise incriminée. On sait toutefois qu'il y a un industriel polonais, une entreprise intermédiaire française et une autre qui fournissait ses fausses têtes cachées de bœuf. Et ce donneur d'ordre pourrait être la société Voldis, basée dans les Côtes d'Armor, selon l'agence France Presse. Libération, de son côté, explique que le propriétaire majoritaire de cette entreprise est un homme d'affaires qui règne sur un empire financier présent au Luxembourg, à Madagascar, au Cambodge, qu'il possède sociétés immobilières, sociétés d'investissement, agences d'intérim, usines d'abattage et de découpe de dinde. Voldis, cité comme fournisseur, en effet, dans le dernier rapport d'exécution du programme européen d'aide alimentaire. Un autre nom ressort également, l'industriel polonais Biernacki, cité là par Ouest France, un nom que l'on retrouve dans une affaire de steak haché avec suspicion de salmonelle fournie au Resto du Cœur en 2014-2015. Les autorités polonaises sont en tout cas saisies et les deux entreprises françaises ont été entendues par les enquêteurs.
Les associations victimes de la fraude demandent à l'État de les aider pour faire face aux frais de stockage des marchandises. La Fédération nationale bovine en profite pour rappeler qu'un cahier des charges garantit la composition et la qualité des steaks hachés de la filière française. À propos de tromperie, elle nous coûte beaucoup plus qu'on ne le pensait. La contrefaçon, dont on sait les dégâts qu'elle peut causer aux marques et aux entreprises les plus exposées, c'est en définitive un manque à gagner de plus de 16 milliards d'euros pour les États européens. Et ça coûte à l'Europe près de 500 000 emplois. C'est un vrai fléau que décrit dans son dernier rapport l'Office européen pour la propriété intellectuelle, Fabien Cazot.
Des vêtements aux bijoux, en passant par les jouets et même la pharmacie, la contrefaçon représente près de 100 milliards d'euros de manque à gagner annuel pour les entreprises européennes. Conséquence, moins de bénéfices, donc moins d'impôts sur les bénéfices et donc moins de rentrées fiscales pour les États. Mais au-delà des profits commerciaux et fiscaux, il y a aussi un coût social. Près de 470 000 emplois seraient perdus sur l'ensemble du continent du fait de la contrefaçon. Les objets dupliqués à l'infini ne représentant aucun investissement productif pour les entreprises. Le constat fait par l'Office européen pour la propriété intellectuelle est sans appel et il se veut surtout pédagogique, notamment en direction des plus jeunes. 41% des 15-24 ans jugent acceptable d'acheter des faux produits quand le prix des produits authentiques ou originaux est trop élevé, en particulier lorsqu'il s'agit de films et de musique.
Et en oubliant donc ce que ça coûte en retour. Consolider l'alliance avec Nissan après l'échec du projet de fusion Renault-Fiat, le gouvernement français reprend l'initiative en direction cette fois du constructeur japonais. En assurant que l'État serait prêt à réduire sa part de 15% au capital de Renault, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a fait ce matin un geste remarqué, d'autant plus qu'il l'a fait au Japon, en marge du G20 Finance. Bruno Le Maire qui dit vouloir consolider l'alliance avec Nissan avant de songer à se rapprocher d'un autre constructeur, Maxime Deps.
tout en tirant finalement la leçon de l'épisode italien.
Oui, l'État actionnaire veut donner toutes les chances à Renault de sauver son couple avec Nissan. Alors, si ça passe par moins d'interventionnisme, moins d'ingérence, pourquoi pas, lorsqu'on sait que les Japonais s'agacent assez souvent et depuis longtemps du poids qu'a l'État dans les décisions prises chez Renault. Pour Bruno Le Maire, il ne s'agirait pas que le château de cartes construit il y a 20 ans entre les deux parties françaises et japonaises se mette à s'effondrer. D'autant, comme vous dites, que l'épisode italien est passé par là, que Nissan n'a que peu goûté d'avoir découvert il y a 15 jours seulement que des discussions étaient engagées depuis le début de l'année entre Fiat et Renault, que le gouvernement était au courant et qu'il n'a rien dit. C'est donc un signe de paix que lance aujourd'hui le ministre de l'économie, qui semble le lancer en tout cas, mais aussi une occasion, reconnaît l'un de ses proches, que le gouvernement, l'occasion de rappeler, selon l'un de ses proches, que le gouvernement n'a pas vocation à siéger ad vitam aeternam au conseil d'administration d'une entreprise qui fait des voitures.
À ce chapitre économique, également tout pété. On se souvient des salariés de l'usine GMS en Creuse qui se disaient prêts à tout pour sauver leur entreprise menacée de fermeture. 7 mois de conflit et au final 120 emplois sauvés sur 277. De cet épisode avait été tiré un film documentaire de Lech Kowalski présenté au dernier festival de Cannes intitulé « On va tout péter ». Il était projeté pour la première fois hier soir à La Souterraine devant les anciens salariés et leur famille, Lisa Mélia.
Les lumières s'éteignent dans la salle comble du cinéma L'Éden. Le silence s'épaissit.
Le couperet, comme on dit malheureusement, le couperet va tomber.
Presque sans commentaire, la caméra de Lech Kowalski égrène. Les bonbonnes de gaz accrochées aux citernes. Les tags, on va tout péter. Les pneus en feu devant l'usine de La Souterraine.
Oui, oui, regarde par la fenêtre, tu vas voir un champignon atomique à La Souterraine.
Les interviews devant la foule de journalistes, les réunions syndicales.
On va rentrer dans une lutte qui va être relativement difficile.
Et jusqu'aux lettres de licenciement reçues après la reprise par GMD. Pas facile de voir les images, même un an et demi plus tard.
On a beau avoir vu le film plusieurs fois.
Yannick Ogras, l'un des leaders syndicaux du mouvement.
Ça nous prend toujours les tripes, c'est pour ça que moi j'évite de le regarder. Parce que c'est toujours un peu compliqué pour moi, même si j'ai une grande gueule, même si je fais le dur. Ça me fait toujours du mal de revoir mes copains et mes copines qui sont plus là.
Ce qui les a fait tenir, disent-ils, c'est la solidarité, la même qui a poussé Richard et deux de ses collègues salariés de l'usine PSA à Sept-Fonds dans l'Allier à venir assister à la projection.
Par solidarité, si ça devait nous arriver, j'espère qu'on ferait la même chose, quoi.
On peut se retrouver en eux, en fait.
Mais pas question de voir ce film comme une page qui se tourne, préviennent les GMS. Le combat continue pour ceux qui sont toujours dans la galère.
On dit des fois, on a écrit la dernière page. Nous, on n'a pas écrit la dernière page, on l'a surtout pas refermée.
Voilà un documentaire qui sera diffusé lundi 24 à 22h55 sur Arte et en octobre dans certaines salles de cinéma indépendantes.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
À l'étranger, la répression continue de s'abattre au Soudan. 5 jours après la dispersion dans le sang des manifestants qui campaient depuis 2 mois dans la capitale Khartoum, 2 figures de la contestation ont encore été arrêtées ce matin. 2 mois après le départ du dictateur Omar el-Béchir, l'armée et les miliciens font à nouveau régner la terreur. Et c'est dans les mosquées que la population retrouve un peu de réconfort, comme hier pour le premier vendredi de prière depuis la tragédie. Sébastien Nemeth à Khartoum.
L'imam préfère que son nom et celui de sa mosquée restent secrets, car dans les rues, les miliciens restent imprévisibles. C'est son premier prêche depuis le massacre et le pays est encore traumatisé.
C'était des crimes contre des innocents, des horreurs. En islam, c'est totalement interdit. Pour Dieu, mieux vaut que la terre n'existe plus plutôt que de perdre le sang d'un musulman. Ceux qui l'ont fait seront un jour punis, soit par la justice des hommes, soit par celle de Dieu. Tout le monde doit maintenant négocier et stabiliser le pays.
Après la prière, les croyants s'assoient sur les grands tapis pour discuter de la situation. Le massacre du sit-in est dans toutes les conversations. Mohamed Salah Mohamed est encore sous le choc et s'en remet à Dieu.
J'ai connu la colonisation britannique. Je n'ai jamais vu des horreurs pareilles. Même à l'époque, la politique se faisait par la négociation, jamais avec une telle violence. Je demande à Dieu qu'il aide les deux parties à trouver un accord et qu'on sorte de cette situation.
Les croyants se disent tristes et amers, car l'Aïd, la fin du Ramadan, censé être un moment de joie et de paix, n'a pas été célébré pour la première fois depuis des décennies.
Sébastien Nemeth à Khartoum. En sport, dur pour Djoko, le numéro 1 mondial, mené 2-7-1 par l'Autrichien Dominic Thiem en demi-finale. Le match avait été interrompu par la pluie hier soir et ça n'a pas mieux commencé pour le Serbe ce matin, Fabrice Abgral.
En effet, puisque Novak Djokovic a perdu le troisième set 2-7-1 donc en faveur de Dominic Thiem. Il a perdu le troisième set, Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, sur le score de 7 jeux à 5. Pourtant, il avait fait l'essentiel en revenant dans la partie, puisque le match avait été interrompu hier au troisième set alors qu'il était mené 3 jeux à 1. Il avait réussi à débriquer, à revenir dans ce troisième set, mais Dominic Thiem a réussi à faire le break dans le 12e jeu, break synonyme de troisième manche en faveur du finaliste de l'an passé, numéro 4 mondial. Et dans le quatrième set, 2-1 en faveur de Novak Djokovic. Dominic Thiem tente en ce moment de débreaker, puisque c'est le Serbe qui est actuellement au service. Il a une balle de débreak pour revenir à 2 jeux partout dans le quatrième set.
Fabrice Abgral, le vainqueur de ce match, bien sûr, affrontera demain Nadal. La finale dames, ce sera tout à l'heure. Elle opposera l'Australienne Barty et la Tchèque Vondrousova. En foot, un record historique d'audience pour les Bleus ES. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde hier soir face à la Corée du Sud a réuni près de 10 millions de téléspectateurs sur TF1. Plus de 44% de part d'audience, avec une pointe à 11 millions. En plus, les Françaises ont magnifié joué et gagné 4-0. À titre de comparaison, le premier match des garçons le 16 juin de l'année dernière en Russie contre l'Australie, c'était 12,5 millions de téléspectateurs. C'était à la mi-journée, il est vrai, mais quand même, ça ne fait pas une si grande différence. Prochain match, plus difficile sans doute pour les Français, ce sera mercredi face aux Norvégiennes. Et puis ce soir, justement, les Bleus de Didier Deschamps, eux, joueront en Turquie, leur match a priori le plus difficile des qualifications pour l'Euro. Allez, il s'appelle Pierrick. C'est un clown qui vient de Suisse, encore inconnu en France, mais il ne va pas le rester très longtemps sans doute. Il vient de poser ses valises à Paris pour tout l'été jusqu'au 30 août au théâtre Tristan Bernard. Il présente un spectacle intitulé Homme encadré sur fond blanc. Avec ses allures de Mr Bean, ce jeune artiste suisse utilise les arts du mime et de la magie avec une belle poésie. En tout cas, il a enchanté Stéphane Capron.
La France va découvrir Pierrick Tintoret, ce nouveau talent à la fois magicien, clown et mime. Son personnage, dans Homme encadré sur fond blanc, se retrouve coincé dans une boîte blanche. Le public est le témoin impuissant de son cauchemar pour sortir de ce huis clos angoissant. Un spectacle sans parole, formidablement bien écrit par Pierrick Tintoret, qui rend hommage aux grands noms du burlesque que sont Pierre Etex et Buster Keaton.
J'adore effectivement tout ce qui est le clown, le cinéma burlesque, et même si effectivement il n'y a pas de texte, ça m'intéresse beaucoup l'écriture d'un spectacle comme ça. Ben celui-là est construit comme un thème et des variations. On est parti sur quelque chose de très graphique. Le spectacle lui-même s'est humanisé et le personnage aussi. Donc dans cet univers très abstrait, hein, voilà, un cube, ben il y a quand même ce personnage qui est purement humain, donc qui doit interagir dans un univers qui lui est hostile et puis qu'il essaie de comprendre.
Avec ses doigts de magicien, Pierrick Tintoret utilise tous les arts visuels avec une maîtrise incroyable. Les tableaux qui se succèdent semblent sortir de l'univers des grands maîtres de la peinture surréaliste que sont Magritte et Dali. C'est flagrant quand son corps devient élastique. On pense aux montres molles du catalan. Pierrick Tintoret a écrit un spectacle inclassable à la poésie inattendue.
Homme encadré sur fond blanc avec Pierrick Tintoret, c'est jusqu'au 30 août au théâtre Tristan Bernard à Paris. Parmi les conseils du week-end également, les étonnants voyageurs à Saint-Malo. Bien sûr, on en reparlera avec notamment ce soir le départ de la fameuse goélette Tara. Les incontournables de la BD à Lyon, aujourd'hui et demain, plus de 200 auteurs pour des rencontres et des expositions. Le festival OFF, lui, continuera jusqu'au 30 juin. C'est la 14e édition de ces incontournables de la BD. Et puis le festival Art Rock de Saint-Brieuc, c'est peut-être l'une des plus belles affiches de la saison, c'est de la chanson. Mais de quelle saison parle-t-on? Puisque hier, pour le premier jour, la tempête Miguel s'était invitée au programme et c'est une soirée compliquée qu'ont vécu les festivaliers. Joanne Moison, reportage.
Imaginez, 18h, quelques minutes avant l'ouverture du festival, il pleut, le vent s'engouffre dans les rues. Une bâche menace de s'envoler sur la scène près de la cathédrale. José, le vendeur de kebab, remballe déjà son stand.
Je suis en train de remballer à cause du temps, que là tout va s'envoler. On va casser du matériel et puis voilà.
Dans son salon de thé, Marie, elle, est à l'abri pour attendre les clients.
Là, c'est même les voisins, il n'y a personne sur les terrasses. C'est un peu la cata, mais on y croit. Les clients vont venir parce qu'ils vont avoir froid.
Vous vous êtes dit, on va proposer des choses très automnales.
De la soupe La soupe bien chaude.
Les festivaliers arrivent devant la grande scène installée en plein centre de Saint-Brieuc. Malgré ce temps, Rémi a le sourire sous sa capuche.
En bon breton, on aime bien la pluie. Bon, il manque les bottes peut-être.
Jean-François garde le moral lui aussi.
C'est un peu triste au départ, hein, mais bon, on va être là tout le week-end. La météo n'est pas un obstacle, mais bon, c'est quand même plus agréable quand il fait meilleur.
Allez, c'est parti, voici Camélia Jordana en imperméable. C'est le premier concert de la soirée.
Quand même, je vous ai pas dit un truc hyper important, c'est qu'en fait, c'est notre premier festival de l'été.
Passez pas encore l'été ce soir à ce festival Art Rock de Saint-Brieuc, Aloïs Sauvage et demain, entre autres, Jeanne Adède et Angèle.